This is UNESCO Radio.
Être libre, c'est ne pas opprimer quelqu'un d'autre.
Sauver les monuments de Nubie.
We have all realized the importance of education.
This is UNESCO Radio.
Bonjour et bienvenue sur le podcast du Courrier de l'UNESCO, une émission de la chaîne UNESCO. De la culture à l'éducation, en passant par les sciences et bien d'autres thèmes, ce podcast sera votre fenêtre sur le monde. Picasso, Miro, Calder, Giacometti ou encore Vasarely, tous ces grands noms, figures majeures de l'art du XXe siècle, sont exposés dans les plus grands musées du monde. Mais on peut aussi admirer certaines de leurs œuvres dans un lieu plus méconnu du public, le siège de l'UNESCO à Paris. Depuis ses débuts en effet, l'organisation défend les artistes et la création grâce à ses programmes et à des instruments juridiques comme les conventions. Ce que l'on sait moins, c'est qu'elle promeut également l'art à travers une collection d'œuvres d'une richesse exceptionnelle que nous décrit ce nouveau podcast du Courrier de l'UNESCO. Un épisode de Laetitia Cassi, réalisation Emmanuel Rudowski, avec la voix d'Agnès Pardon.
Je suis heureuse que nous soyons ensemble pour inaugurer cette œuvre, Substratum. Vous la voyez derrière moi. Vils va vous en parler, est avec nous. Conçu ici dans nos murs, très littéralement, avec nos murs.
Juillet 2023, au siège de l'UNESCO. La dernière œuvre d'art offerte à l'organisation est dévoilée. Il s'agit de Substratum, de l'artiste portugais Alexandre Farto, dit Vils. Cette fresque immense, de 31 mètres de long, taillée au burin et au micro-perforateur, célèbre la diversité des sites du patrimoine mondial. La fresque de Vils vient rejoindre la riche collection d'œuvres d'art de l'UNESCO. Au total, 1500 peintures, sculptures et autres pièces ont été acquises au cours de ces dernières décennies, depuis l'inauguration du siège, en 1958. Certaines de ces œuvres, 11 en tout, ont été conçues spécifiquement pour le bâtiment et commandées aux plus grands artistes de l'époque. La fresque monumentale de Picasso, connue sous le titre de « La chute d'Icare », en fait partie. Elle est dévoilée en mars 1958 à Valoris, dans le sud de la France, alors qu'elle sort tout juste de l'atelier du maître.
Ici, la cour du groupe scolaire Enfonceau à Valoris, où est présenté cet après-midi le panneau monumental commandé à Pablo Picasso par l'UNESCO pour décorer son palais de Paris.
Présent lors de cette inauguration, Picasso commande cette fresque monumentale de 85 mètres carrés dans une archive de Radio UNESCO en 1958.
Ça a duré des mois et des mois, où ça s'est transformé petit à petit, sans savoir même où j'y allais, n'est-ce pas? Ça a commencé pour vouloir faire un atelier où il y avait des tableaux, où c'était mon atelier, où j'étais en train de peindre, n'est-ce pas? Et petit à petit, les tableaux a mangé tout l'atelier, et il est resté que lui-même, en disant, en exprimant des choses, dont je suis le maître, mais pas volontairement l'acteur, n'est-ce pas?
Soucieux de construire un bâtiment moderne, en rupture, les architectes du siège ont en effet voulu dès l'origine que des œuvres contemporaines viennent dialoguer avec l'édifice, en cohérence avec leurs gestes novateurs. Le choix des artistes a donné lieu à des discussions. Dans son numéro spécial publié en 1958, à l'occasion de l'inauguration du siège, le Courrier de l'UNESCO précise les critères qui ont présidé au choix.
Les artistes ont été choisis non pas comme représentants de telle ou telle école de peinture, de telle ou telle forme nationale d'art, mais en tant qu'interprète internationalement reconnue de l'art contemporain.
Parmi eux, on peut citer des peintres comme l'Espagnol Miro, le Néerlandais Karel Appel ou le Chilien Roberto Mata, mais aussi des sculpteurs comme le Britannique Henry Moore ou l'Américain Calder et un photographe, l'Hongrois Brassai. Le sculpteur japonais Isamu Noguchi dessinera quant à lui un jardin japonais composé de bassins, d'arbres et de sculptures minérales. Nations Unies oblige, il faut que les œuvres présentées reflètent en effet la diversité des États membres, même si au départ, les artistes nord-américains et européens sont largement surreprésentés, et les femmes, totalement absentes. Dans le numéro spécial du Courrier de 1958, le journaliste et poète panaméen Roque Javier Laurenza s'enthousiasme pour cette vitrine qu'offre l'UNESCO à l'art de l'époque.
L'UNESCO présente dans ses salles, dans ses couloirs, dans ses jardins, des œuvres d'artistes qui jouissent d'un prestige international indiscutable, qui sont les témoins de l'art d'aujourd'hui.
Des témoins engagés aussi. Moins de 15 ans après la fin d'un conflit mondial particulièrement meurtrier, les artistes qui conçoivent des œuvres destinées au siège de l'UNESCO manifestent leur espoir d'entrer dans une ère de paix. La fresque de Picasso exprime la fin d'un monde et l'entrée dans une nouvelle ère. C'est l'interprétation qu'en donne le poète Jean Cocteau.
Bien, selon moi, c'est le rideau qui se lève sur une époque ou qui se baisse sur une époque. C'est ça, la volonté du public. Nous avons vécu une époque tragique, nous allons en vivre une autre, et c'est soit le rideau qui se baisse sur une époque tragique, soit le rideau qui se lève sur le... C'est le rideau du prologue d'une autre époque tragique. Mais il y a une grande tragédie dans son... dans sa fresque. Et c'est un diplodocus, c'est le dernier animal terrible d'une... d'une époque que nous venons de traverser, qui est très grande d'ailleurs, mais très, très terrible.
Au fil des ans, la collection d'œuvres de l'UNESCO s'est agrandie grâce à une politique continue d'acquisition, puis aux donations des États membres et aux cadeaux offerts aux directeurs généraux. Parmi les œuvres qui viennent enrichir le catalogue, on peut citer l'un des bronzes de l'homme qui marche, la sculpture mythique d'Alberto Giacometti, une acrylique sur toile de l'artiste franco-hongrois Victor Vasarely, ou encore une œuvre du peintre espagnol Antoni Tàpies. Dès l'origine, un comité d'experts est mis en place pour conseiller le directeur général de l'UNESCO dans l'examen des propositions de donation. Composé de spécialistes internationaux de la conservation et de la restauration du patrimoine, le comité consultatif pour les œuvres d'art se réunit une fois par an pour étudier les dossiers. Pour chaque candidature, un véritable travail d'enquête est mené afin de déterminer l'origine, le parcours et l'état de conservation des œuvres. Précision de Frédéric Declerc, président de ce comité.
Ce qui est demandé à chacun de ces États, au moment où ils constituent leur dossier, c'est un, de présenter l'artiste son travail, en quoi les œuvres proposées s'insèrent dans les missions de l'UNESCO, notamment autour de la paix, mais également de resituer dans un environnement plus large, historique, artistique, intellectuel, l'artiste et son travail dans la culture du pays donateur. Évidemment, le dossier est accompagné d'un constat d'état qui permet de voir plus en détail si c'est une œuvre qui pourrait poser problème en matière de conservation. Également, nous sommes attachés à un certain nombre de points juridiques tels que la cession des droits permettant de pouvoir communiquer sur l'œuvre ultérieurement dans le cadre d'une communication plus globale de la collection.
Lors de son dernier inventaire, l'UNESCO comptait plus de 1500 œuvres. Celles qui ne sont pas exposées dans les couloirs et bureaux de l'UNESCO sont conservées dans les réserves, à l'abri des regards, dans les sous-sols du bâtiment. Un lieu que Linda Frénois, chargée de la gestion des œuvres d'art à l'UNESCO, connaît bien.
Alors, on arrive dans les deux réserves.
Dans ces petites pièces, où la température n'excède pas 18 degrés, sont entreposées près de 600 œuvres d'art qui complètent la collection de l'UNESCO. Conservées dans des boîtes ou minutieusement empaquetées, elles attendent d'être à leur tour exposées. Si la collection est largement dominée par les œuvres modernes ou contemporaines, elle compte aussi des pièces plus inattendues, comme cette tortue naturalisée de l'île de São Tomé et Principe, arrivée dans la collection en 2002.
Voilà la tortue. Donc ça, c'est un exemplaire de notre collection de sciences naturelles. Qui ne comprend pas énormément de pièces, mais qui sont toutes vraiment très, très intéressantes. Et il ne faut pas oublier que nous n'avons pas que des œuvres d'art, nous avons aussi des sciences naturelles, nous avons des œuvres témoins, justement, d'un patrimoine plutôt architectural. Nous avons tout support, ça va du tapis en passant par les instruments de musique. C'est extrêmement varié.
La collection de l'UNESCO couvre en effet plus de 6000 ans d'histoire et reflète une très grande diversité géographique, historique et culturelle. Conserver des œuvres aussi variées nécessite des soins particuliers, comme l'explique Linda Frénois.
La première des choses, c'est de connaître nos priorités et de penser avant tout en fait, à la transmission du patrimoine. Donc vraiment, le premier mot, c'est la conservation. Voilà. On est là en tant que passeur de ce patrimoine, donc il faut le faire avec beaucoup d'humilité et en toute transparence.
Pour cela, l'organisation s'appuie sur des partenaires scientifiques, culturels, artistiques et financiers issus du secteur public et privé.
On ne peut pas travailler seul. C'est-à-dire que pour transmettre ce patrimoine, pour répondre à au premier point urgent de la conservation, de la restauration des œuvres, on ne peut pas être seul. Il faut imaginer que pour la restauration d'une sculpture en pierre ou l'étude d'une peinture chinoise, par exemple, moi, je n'ai pas une connaissance universelle, évidemment, et ce serait, je pense, faire fausse route que de gérer des collections justement universelles et d'être seule. Il faut être accompagné, il faut échanger, il faut se nourrir, il faut que cette collection puisse refléter concrètement les missions même de l'UNESCO, c'est-à-dire vraiment une ouverture sur toutes les formes en fait de recherche, qu'elles puissent être scientifiques, techniques également. Le troisième point, il ne faut pas l'oublier, c'est un travail de fourmi au quotidien qui est énorme, de dépouillement d'archives, de recherches, d'enquêtes. Lorsqu'une œuvre arrive au sein du bâtiment, ce n'est que le début. Voilà. Donc ça, c'est un travail extrêmement long, sans fin, en fait, qui est passionnant et qui permet, là aussi, de répondre à des attentes ponctuelles dans le cadre d'une petite exposition, d'une présentation lors de la venue d'un chef d'État, par exemple, ou lors des journées du patrimoine, parce qu'on a aussi cette vocation d'ouverture au public le plus large, pendant la nuit des musées, pendant des visites guidées aussi. Hein. Il y a des visites tous les jours au sein de l'UNESCO, d'enfants, de classes, enfin, c'est bouillonnant. Donc, ce troisième point est à la fois lié à la recherche scientifique, mais aussi à la valorisation et montrer, encore une fois, avec transparence que le travail est effectué.
Ce qui est particulier dans le cas de l'UNESCO, c'est que si elle possède bien une collection muséale, elle n'est pas pour autant un musée. C'est un lieu de travail et de passage. C'est aussi un endroit dévolu à la coopération internationale. Dans ce contexte, l'art joue aussi un rôle diplomatique. En effet, les œuvres sont aussi exposées en fonction des événements organisés au siège ou donnent lieu à des expositions temporaires proposées par les États membres.
Nos collections sont mondiales, mais on est dans un lieu de vie, vraiment. Donc c'est un échange, c'est une discussion. C'est le cas, par exemple, en ce moment, avec une œuvre monumentale. On doit trouver le bon endroit, à la fois pour bien la voir, pour qu'elle soit préservée, exposée, mais qu'elle puisse aussi respecter l'intégrité des œuvres qui l'environnent. Donc, c'est vraiment un échange. C'est peut-être la partie qui est la plus longue, finalement, la plus complexe, parce qu'on souhaite, évidemment, quand on reçoit une œuvre, on souhaite la mettre en valeur tout de suite. Donc, nous essayons évidemment, puisque nous ne sommes pas un musée, nous avons des collections muséales, mais nous ne sommes pas un musée, nous essayons d'harmoniser aussi en fonction des souhaits, en fonction des attentes, des réceptions importantes, des temps forts aussi de l'année, comme la conférence générale. On sait qu'il y aura beaucoup plus d'œuvres de présenter. Donc, le rôle des œuvres d'art, hein, c'est à la fois de valoriser les États membres, de valoriser la création, que ce soit des œuvres antiques ou contemporaines. On a aussi ce rôle en tant qu'UNESCO de valoriser cette création, mais d'avoir également un rôle presque diplomatique, hein, en diplomatie culturelle, pour promouvoir les actions plus larges de l'UNESCO dans tous les secteurs, que ce soit l'éducation, les sciences aussi.
Aujourd'hui encore, l'UNESCO continue de recevoir des œuvres et de mettre en avant le travail d'artistes du monde entier. C'est le cas par exemple de l'œuvre intitulée « Debout » de la plasticienne canadienne Caroline Monet, offerte en 2022 à l'UNESCO par le gouvernement du Québec. Ce photomontage mêle des images d'archives et des photos de femmes autochtones d'aujourd'hui. Par ce travail, l'artiste Caroline Monet a voulu les rendre visibles.
« Debout » fait référence à une photo d'archives que j'ai trouvée qui date des années 70 de la crise d'octobre. Et c'était le soulèvement des femmes qui disaient « on se tient debout droite ». Ça veut dire qu'on se tient avec force, avec résilience, avec énergie pour lutter pour nos droits communs. je suis très très fière que les femmes qui ont accepté de poser devant ma caméra se retrouvent à l'UNESCO, parce que c'est des femmes qui ont des voix importantes, des voix engagées. Ça, j'ai l'impression qu'à travers cette œuvre-là, j'amène un petit peu de ces femmes-là aussi sur la scène publique internationale. Que les questions autochtones et principalement les questions qui touchent les femmes autochtones du Canada vont résonner, vont être entendues.
L'UNESCO n'est pas la seule institution des Nations Unies à posséder une collection d'art. Au siège de l'ONU, à New York, on trouve des œuvres de Henry Moore, Fernand Léger ou Chagall. Mais elle possède de loin la plus riche et la plus variée. Si ce podcast vous a donné envie de la voir de plus près, des visites sont organisées tous les jours. Les réservations se font en ligne sur le site de l'UNESCO. Vous pouvez aussi vous reporter au numéro spécial que le courrier a consacré au siège et à ses œuvres d'art, une archive de 1958. Rendez-vous sur notre page www.courrier.unesco.org, rubrique Archives.